19h, passé de 1 minute sur Radio Campus Tours. Bienvenue si vous nous rejoignez, chers auditeurs, vous écoutez La Méridienne. Aujourd'hui, avec moi en studio, j'ai la chance d'avoir trois invités. Bonjour Éric Mercier.
Bonjour.
Vous êtes doctorant à DINADIV, je crois.
Oui, tout à fait, je suis docteur, donc je viens tout juste de terminer cette thèse. Voilà, ouf. Donc dynamique, ouf, tout à fait, dynamique et enjeu de la diversité culturelle et linguistique, c'est ça, DINADIV.
Et alors, avec nous en studio, deux invités, Ifik Mohamed Bedris, pardon, bonjour.
Bonjour.
Et Radouane Idriss, bonjour.
Bonjour.
Alors messieurs, on est très contents que vous soyez là avec nous. Et c'est vous, Éric Mercier, qui avez convié ces deux invités. Alors peut-être qu'on peut commencer par rappeler à nos auditeurs quel est le sujet de cette thèse que vous avez soutenue, puisque ça y est, vous êtes docteur.
Oui, tout à fait. Alors... Pour faire simple, ma thèse, elle pose la question de savoir si les politiques d'intégration qui sont destinées aux adultes migrants sont pertinentes. C'est-à-dire, quels sont leurs effets positifs comme négatifs, et quelles sont leurs conséquences, voilà, pour essayer concrètement de les améliorer, d'améliorer ces moyens que nous mettons en œuvre pour tenter de faciliter la vie de ces personnes en France. Voilà.
Alors, c'est quoi un migrant, déjà ?
Ah. Alors, bonne question. Je pense que migrant, déjà, c'est un terme bien large qui rassemble différentes catégories de personnes. Quand on dit migrant, on peut déjà s'arrêter sur le fait qu'il y a le passage d'une frontière que quelqu'un a traversée suite à un voyage, suite à un déplacement. Quand on pense à migrant, dans le cadre en tout cas, par exemple, de ces politiques, cela désigne beaucoup de personnes différentes, en fait. On peut penser donc bien sûr aux réfugiés. Les réfugiés, qui est donc une catégorie assez spécifique, mais il y a aussi des personnes qui viennent travailler en France. Il y a des personnes qui sont issues du regroupement familial, donc qui viennent rejoindre leur famille. Voilà. Donc, on pourrait parler longtemps, je pense, juste de ce terme migrant, tout ce qu'il renferme. Et je pense que juste pour conclure là, on pourrait dire que migrant, d'un côté, c'est un terme qui est plein de représentations et d'idées. Donc, le migrant que l'on voit à la télé, le migrant dont on entend parler... tous les jours. Et il y a aussi les personnes qui sont derrière, qui sont finalement des personnes tout aussi diverses que vous et moi et que tout le monde, toutes les personnes que l'on peut rencontrer. Et je pense que ce qui pourrait être intéressant, c'est de demander justement à ces migrants comment eux, ils se définissent. Voilà, c'est peut-être ça le plus important.
Et peut-être que nos invités veulent ajouter quelque chose. Comment vous, vous définiriez, qu'est-ce que ça vous évoque, migrant ?
Justement, ce qu'elle vient de dire, ça m'a fait paraître égal, en fait. C'est la même définition que j'ai. Donc, je ne pense pas rajouter des choses par rapport à ça.
D'accord. Est-ce que toi, tu te qualifies volontiers comme migrant et,
ouais.
tu y vois quelque chose de positif?
Ça peut être positif ou ça peut être négatif. Mm-hmm. Ça peut être positif parce que, on est là, on a quitté le pays, par exemple. On est dans un autre pays qu'on a découvert de culture, d'autres, autres thématiques, autres culturels. Mais d'un autre côté, c'est parce que vous êtes obligé de rester ou vous êtes obligé de quitter le pays. Donc, c'est le terme qui est négatif, on peut dire.
Ah, ouais. Ce n'est pas qu'un choix.
Ce n'est pas qu'un choix, oui.
D'accord.
C'est ça.
Merci.
Alors, il y a aussi dans ce que vous disiez, Éric Mercier, l'idée des politiques d'accueil. Alors, c'est quoi une politique d'accueil ?
Alors, une politique d'accueil, concrètement, en France, je vais vous expliquer un petit peu ce que sont ces moyens qui sont mis aujourd'hui en œuvre par l'État français, donc pour favoriser l'intégration d'adultes migrants. Et alors, concrètement, pour les adultes, il s'agit de deux politiques successives qui sont apparues dans les années 2005. Alors, je vous propose juste de vous expliquer concrètement de quoi il s'agit. D'abord, il y a le contrat d'accueil et d'intégration, donc le CAI. Il a été annoncé par Jacques Chirac en 2002. Et donc, il s'est ensuite développé, il a été rendu obligatoire et national en 2006-2007, donc sous le mandat de Nicolas Sarkozy. Et alors concrètement, qu'est-ce que c'est ce CAI ? Il s'agissait, quand on est accepté légalement en France, donc en tant que migrant, mais c'est particulier, c'est-à-dire que cela comprend des réfugiés et d'autres migrants de différentes catégories, tant qu'ils ne sont pas de l'Union européenne. Voilà. Alors, lorsque l'on arrive et que l'on est accepté légalement en France, on est convoqué à un entretien à ce qui s'appelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration, donc l'OFI. Ça se situe à Orléans pour notre région. Donc, on est obligé de signer ce contrat, ce CAI, et il engage donc à des formations, à différents types de formations. Donc, il y a des formations civiques qui sont obligatoires pour tous, et il y a des formations en langue. Les formations en langue, donc le niveau en langue de la personne, elle est évaluée sur la base d'un entretien, donc avec des personnes de l'OFI qui la reçoivent, et cela va déterminer si la personne a un besoin ou non de formation. Donc ensuite, cela va déterminer aussi un nombre d'heures de cours de français à suivre obligatoirement. Alors ce nombre d'heures, il est très variable hein, selon les époques, mais aujourd'hui, ça va jusqu'à d'une centaine d'heures à 600 heures. Donc 600 heures, c'est réservé pour les personnes qui n'ont pas été beaucoup scolarisées dans leur pays. Voilà. Donc la première obligation, c'est ça, c'est de suivre obligatoirement ces heures de français. Et la seconde obligation, c'est de se présenter. Donc c'était de se présenter à un petit examen de français de tout petit niveau qui s'appelait le DILF, le diplôme initial en langue française. Donc ça, c'était de 2006 à 2016. Et alors en 2016, ce qui s'est passé, le deuxième dispositif, le nouveau dispositif, il a changé de nom et il s'est durci. Il ne s'appelle plus le CAI, mais il devient le CIR, le contrat d'intégration républicaine. Alors ce que ça change en gros, on n'est plus seulement obligé de venir, mais on est obligé de progresser à trois tests en français de niveau A1. Donc le niveau a augmenté. Et lorsqu'il s'agit d'une obligation de progresser à trois tests, il y a bien une obligation d'apprendre le français. Donc, ce sont d'ailleurs, donc, dans le cadre de ce nouveau dispositif de 2016, ce sont aussi des formations qui sont plus intensives. Pour le CAI, on allait autour de 12 heures par semaine. Là, cela va jusqu'à 30 heures de français par semaine. Donc, c'est très intensif. Et alors, dans les deux cas, le CAI comme le CIR, la condition donc du bon respect du contrat, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est d'abord le renouvellement de la première carte de séjour. Mais aussi, à moyen ou à long terme, c'est aussi l'appréciation des efforts d'intégration de la personne. Donc, ils peuvent le suivre, le ou la suivre dans son dossier. Donc, le dossier qui va suivre la personne, par exemple, en préfecture, notamment, mais aussi dans d'autres administrations. Voilà. Et donc, ces efforts d'intégration, ils sont appréciés sur la base des résultats au test. Voilà.
Alors, j'avais quelques questions. Alors, qu'est-ce qu'on fait, par exemple, des personnes qui n'y arrivent pas à apprendre le français?
Eh bien, ça, c'est une bonne question. Quelqu'un qui échouerait au test, par exemple, comme on va apprécier justement le fait qu'il apprenne la langue française à partir de ses seuls tests, on risque de lui donner encore des formations et encore des formations. Donc, si vous voulez, ce qui risque de se passer déjà, c'est que la personne, elle risque de se retrouver dans un circuit dans lequel on la forme en permanence. Et en faisant comme si cela pouvait déclencher ou provoquer l'apprentissage du français. Voilà. Une des conséquences directes de cette centration sur les formations en français, c'est celle-ci. C'est qu'on risque de réduire comme seule solution pour apprendre le français à la formation en langue. Voilà.
Là, parce qu'on peut peut-être dire aussi que là, il y a un type de formation, mais qu'on soit migrant ou pas, d'ailleurs, tout le monde n'apprend pas de la même façon.
Oui, tout à fait. Ben justement, on peut penser tous à nos propres expériences d'apprentissage d'autres langues. On a tous suivi des cours de langue, donc d'anglais, d'espagnol, d'allemand peut-être. Et quand on y pense, eh ben, c'est pas toujours facile de passer à la pratique, en contexte réel, et même quand on a eu des bonnes notes d'ailleurs, ou une bonne, quand on a été considéré comme un bon élève. Et à l'inverse d'ailleurs, qu'on se dise bon ou mauvais en langue, eh bien, on peut s'étonner de ce que l'on est capable de faire une fois dans un autre pays aussi. Donc, par exemple, quand on y exerce une activité professionnelle, on peut s'étonner de la vitesse avec laquelle on apprend en contexte réel. Voilà. Donc, pour souligner que quand on commence à se poser la question de est-ce que la formation en langue à elle seule peut être une solution ou la solution pour apprendre la langue, je pense que non, clairement.
Et une autre question aussi, donc vous évoquiez la mesure des efforts. Alors c'est quoi un effort? Parce que ça semble très flou comme notion. C'est comme l'idée d'apprendre la langue, les efforts sont pas les mêmes. Enfin, par exemple, courir un marathon, ça demandera pas le même effort à tout le
Oui.
monde. Donc là, comment on mesure des efforts? Et puis, c'est, comment dire, ça met peut-être la suspicion, en tout cas le doute sur est-ce que la personne fait bien des efforts? Enfin, c'est, il y a quand même un, peut-être, on est peut-être dans le jugement moral aussi.
Oui, tout à fait. Le fait est que là où j'ai justement cherché à creuser cette question, c'est de me poser la question des effets de cette centration sur les résultats au test et de ce que l'on essaie d'y voir, donc des efforts ou pas d'intégration. Pour aller directement dans les conséquences de regarder ces efforts seulement à partir de ces résultats en langue, je peux vous donner un petit exemple. C'est que j'ai eu écho à deux reprises d'assistantes sociales qui, suite à ces formations, appellent les organismes de formation pour se plaindre que quelqu'un n'a pas bien fait son travail, finalement. Donc, par exemple, pour se plaindre du fait qu'une personne migrante n'a pas progressé, ou bien qu'elle n'arrive pas à appliquer ce qu'elle a appris en classe. Comme si le fait de parler français pouvait dépendre de techniques d'enseignement efficaces, sans avoir à demander finalement son avis à la personne qui est en face. Donc, regarder ces tests en langue pour apprécier des efforts d'intégration, c'est particulièrement trompeur. Parce que ça ne laisse pas de place pour apprécier des situations dans leur complexité. Ça ne laisse pas de place à imaginer aussi d'autres solutions que la seule formation linguistique. Ça n'aide pas à comprendre les difficultés qui sont rencontrées par la personne en question pour apprendre. Et ça n'aide pas non plus à imaginer d'autres solutions que la seule formation en français. Alors, l'enjeu de ne pas se restreindre à ces seuls tests en langue, eh bien, c'est de ne pas passer à côté de ce qui pourrait être aussi essentiel, c'est-à-dire par exemple rendre compte à cette personne du potentiel de ces formations, même si ça ne fait pas forcément sens sur le moment. Voilà. Pour rebondir sur ça quand même, je voudrais souligner à quel point du coup ces tests en langue, ils ne veulent rien dire en soi. C'est-à-dire que vous pouvez par exemple avoir des personnes qui ont énormément progressé à ces tests. Donc, ils ont montré une progression, et donc on risque d'imaginer qu'elles ont fait les efforts d'intégration, et qui finalement risquent de stagner après, ou bien de ne pas progresser tout de suite. À l'inverse aussi, on peut avoir des personnes qui n'ont pas du tout montré de progression lors de ces tests, et qui. et
Le
qui...
masque, ça étouffe, hein.
Le masque est étouffant, oui, tout à
Voilà,
fait.
je précise pour nos auditeurs qu'on fait de la radio évidemment avec un masque, avec du cellophane sur les micros, et que évidemment ça demande à pouvoir reprendre son souffle de temps en temps. Voilà, donc bravo à nos invités de jouer le jeu parce que c'est loin d'être évident. Voilà, Éric Mercier, vous en perdez votre souffle de ce masque. Voilà,
Tout à
donc.
fait. Alors je reprends, merci. Donc à l'inverse, il y a aussi des personnes qui n'ont pas montré de progression à ces tests, lors des trois tests, et qui risquent de surprendre leur formateur s'ils reviennent quelques mois après. Parce qu'il s'est passé quelque chose et parfois ils ont appris de façon spectaculaire le français. Alors comment ont-ils appris le français si ce n'était pas la formation au départ qui leur a permis cela? Voilà. Si vous voulez, finalement, en soi, les tests ne montrent pas grand-chose. Peut-être qu'après on sera amené à reparler d'intégration, mais sur ce plan-là, en réduisant au seul critère de la langue, cela ne permet pas d'apprécier toute la complexité, si vous voulez, des situations, de ce qui rend difficile la solution formative, ou justement de ce qui la rend facile aussi. On peut se retrouver à apprécier et finalement penser qu'une personne s'est intégrée, a bien suivi tout ce que l'on attendait d'elle dans le cadre de ses formations obligatoires, alors que finalement il y avait d'autres facteurs qui étaient très décisifs à côté de ces formations. Par exemple, le fait de pratiquer le français à la maison, lorsque l'on a un conjoint français ou une conjointe française, le fait d'avoir des relations sociales, le fait d'avoir déjà un premier pas dans le monde du travail en France aussi. Voilà. Donc tout ce type de d'autres facteurs qui peuvent être véritablement décisifs, on risque de passer à côté si on apprécie seulement les progressions à un test en langue. Voilà.
Alors je me tourne vers nos invités. Est-ce que vous avez envie de dire, messieurs, vous, comment vous avez appris le français en fait? Quand vous êtes arrivés ici en France, est-ce que vous parliez déjà français? Ou non, pas du tout? Comment ça s'est passé pour chacun de vous?
Bah, moi personnellement, quand je suis arrivé ici, bah, je ne savais même pas dire bonjour. Et bah, du coup, c'était la difficulté, c'était la première difficulté que j'ai rencontrée. Et je me suis rendu compte que la première chose à faire ici, quand on arrive dans un pays qu'on apprend pas, qu'on ne sait pas sa langue, donc bah, c'est de l'apprendre la langue. Juste, moi, j'ai commencé à faire ça, sauf que bah, j'ai eu des difficultés, je ne sais pas par où commencer. Et j'ai commencé par les associations, par faire des relations sociales, et voilà. C'est à partir de là où j'ai commencé. Discuter avec les gens en anglais, en arabe un petit peu. Et puis voilà, j'ai eu l'occasion d'être à la fac avec le QFO et d'apprendre la langue française. Donc, c'était là que j'ai commencé.
C'est quoi les premiers mots alors qu'on saisit, qu'on attrape comme ça? C'est quoi les premiers mots que vous avez attrapés?
Bonjour, je ne sais pas parler français. C'était ça, mais vraiment parce que bah, quand quelqu'un arrive vers toi pour parler avec toi, bah, tu sais pas quoi dire. Et donc, pour qu'elle sache que tu parles pas le français, bah, désolé, je parle pas français. C'est ça qu'on apprend. Après, bah, ça y est, ça commence petit à petit. Mais genre, je parlais un petit peu français. Ça commence en fait. Ça commence comme ça.
Et vous, Ifik?
Moi aussi, c'est la même chose. Le premier jour qu'on finit ici en France, quelqu'un dit le bonjour. Moi, je dis, what? Bah, avec l'anglais. Alors, petit à petit, j'ai pensé, mais pas beaucoup. À quoi le continuer, moi aussi, j'étais faire un test A1. J'ai passé le mois de décembre 2010, 2020. Encore ici, le continuum. Et retourne, j'ai demandé à une pharmacienne, les bénévoles. Ils ont aidé pour moi beaucoup. C'est continuer de finir. Déjà, normalement, une semaine dernière, j'ai fait un test pour les ados. Attendez, j'ai un test pour l'oral. Demain, normalement. Et c'est tout.
Mais alors comment, qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce qu'il y a un moment où il y a quelque chose qui, un déclenchement, un déclic, où on se dit, ah ça y est, là je peux aller vers les gens en fait, j'ai assez de mots, j'ai assez de mots dans ma main pour aller parler aux gens. Est-ce qu'il y a un moment où on se dit, ah là c'est bon, ça y est, je peux...
Bah, c'est difficile en fait. Quand on est migrant et qu'on arrive comme ça dans un pays qu'on ne connaît personne, c'est déjà pour bah, le lien social, c'est difficile. D'abord, on ne connaît pas de personnes. Chacun est dans son coin comme ça, loin. Et s'il n'y a pas des associations, par exemple, qui peuvent venir vers toi, voilà, on discute avec eux, on essayait de voilà, changer un petit peu l'habitude. Bah, c'est difficile, ça reste toujours dans son coin et là, on ne progresse pas. Et si aussi on n'a pas de projet, on est là, ok, qu'est-ce que je fais? Oh, je ne sais pas. Alors, bah, là, on reste comme ça chez nous, sans parler en français, sans apprendre. Et c'est le difficile. Et donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que, j'ai oublié ce que je voulais dire, mais oui. Justement, si on n'arrive pas à trouver des projets, si on n'arrive pas à trouver des liens sociaux, c'est difficile d'apprendre le français.
Oui, alors ce que vous soulignez tous les deux, merci, c'est aussi une chose importante, hein. Je suis dans une perspective critique de ces politiques linguistiques, mais c'est volontaire, hein. C'est pour viser à les améliorer. Mais ce que vous soulignez ici, c'est une chose importante, c'est que je pense, suite à mes travaux, que l'obligation formative n'est pas forcément une solution à rejeter en soi. Parce que obligé à suivre des formations, ça comporte, je pense, un certain nombre de pertinences, et vous l'avez très bien dit, c'est-à-dire que ne pas rester chez soi, essayer de provoquer des rencontres entre les personnes, faire découvrir la formation aussi, ça c'est très important, et ce qu'elle pourrait permettre d'amener. Et aussi, pourquoi pas, donner le pas, je pense, ça c'est très important, donner le pas à certains projets, à des projets qui sont personnels aussi. Mais là où je m'arrêterai, c'est que les formations ne permettent pas de forcer à apprendre la langue. Et c'est bien là que je pense qu'il y a à creuser une nuance importante. Parce que si l'on se focalise simplement sur l'idée de d'apprendre le français en faisant une quantité d'exercices avec une intensité de formation, par exemple 30 heures de français par semaine, et que l'on en oublie justement des choses particulièrement importantes, comme par exemple les relations qui peuvent être en train de se tisser pendant ces temps de formation. Eh bien, le risque, c'est précisément de ne pas tirer suffisamment parti de ce que vous venez de dire. Moi, c'est mon objectif, voilà, pour faire simple. C'est-à-dire que l'on puisse ouvrir la formation linguistique à d'autres possibilités que la seule idée de former en langue en permanence. Donc, essayer d'ouvrir à d'autres possibilités, comme celle de faire découvrir la formation, donner le pas à certains projets et faire sortir de chez soi. Mais tout cela, pour pouvoir en tirer parti, je pense, suite à ces recherches, que cela implique de se décentrer un petit peu de cette évidence selon laquelle c'est la formation en langue qui pourrait permettre l'apprentissage. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, peut-être que tu en as quelque chose à dire.
Oui, je suis totalement d'accord avec, avec vous, bien sûr. Parce qu'en fait, la difficulté aussi que, en tant que réfugié, quand on est là, en tant que j'ai demandé d'asile, et puis il y a un temps vide que vous ne savez pas quoi faire de en ce moment. Et l'État, peut-être qu'il vous donne le cours de français à partir où vous êtes réfugié, vous êtes reconnu comme réfugié. Bah, y a une période que vous ne savez quoi faire, et si on arrive dès le début d'apprendre, bah, ça serait parfait, comme ça on avance en fait. Mais on attend jusqu'à le moment où vous aurez votre papier, comme ça, bah, ça serait 200 heures, je ne sais pas parler en français, je ne sais pas combien d'heures, mais ça ne suffit pas. Oui. Ça ne suffit pas, et on a besoin encore en fait. On a besoin encore.
Donc, vous êtes en train de dire que la formation linguistique, elle est fondamentale, elle est très importante, et elle pourrait être importante même avant, avant que l'on se pose la question de la légalité ou pas en France, finalement.
C'est ça.
Elle est importante tout court.
C'est ça que je veux dire, oui. Ouais, c'est de commencer dès le début, d'apprendre le français. Dès que vous êtes en France, bah alors, bah, si vous avez des papiers ou non, bah, vous avez besoin de vivre ici, de toute façon. Donc, c'est mieux de commencer par la langue française, et voilà. C'est ça que je veux.
Alors, je me demande aussi, dans ce que vous expliquez, les uns et les autres, est-ce qu'il n'y a pas un lien, disons, émotif ? Il faut qu'il y ait des émotions positives, si possible, pour apprendre une langue. C'est-à-dire que si c'est sur du papier, des livres, ça, on ne retient pas, en fait. À partir du moment où il y a des émotions, de dire, bah tiens, cinéma, musique, là, je suis avec d'autres. En fait, on retient mieux parce qu'on s'est lié à des émotions. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça vous semble vrai? C'est plus facile d'apprendre une langue quand un mot s'est relié à une personne, à un moment, à quelque chose qu'on ressent. Est-ce que c'est vrai?
Oui, tout à fait. Je suis d'accord de cette question. Bah oui. Quand on compare des choses ou quand on lie des mots avec des choses qu'on fait. Le fait d'aller au cinéma, le fait d'aller au théâtre, de sport, d'apprendre des choses différemment, ça permet aussi d'apprendre facilement. Parce que sinon, bah, après, c'est difficile. Bah, selon la vie de la personne, elle est dans un état qu'elle ne sait pas quoi faire, qu'elle a perdu des choses dans son pays. Et quand elle arrive là, bah, après, il faut avoir différentes choses qui lui permettent d'aimer, en fait, apprendre. C'est ça.
Et sur ce point, justement, dans ce travail, ce que je cherche aussi à faire à plus long terme, c'est ça, c'est-à-dire de pouvoir donner davantage de sens à ces formations, de pouvoir les raccrocher alors, à des projets personnels des personnes, donc les individualiser, pouvoir permettre de les raccrocher à des intérêts aussi, à des goûts, à des plaisirs. Alors, bien sûr, c'est déjà ce que tentent de faire ces formations, c'est déjà un des objectifs affirmés de ces formations, mais le fait de se centrer sur le français, comme s'il s'agissait de quelque chose d'extérieur, finalement, aux personnes, est différent de travailler le français par rapport à ce que l'on a entendu dans la rue, par rapport aux expériences que l'on a pu avoir, par rapport aussi, en particulier aussi, aux questions que l'on se pose sur la France, sur comment on apprend une langue et comment on va faire finalement. Tous les projets qu'une personne peut construire dans sa tête sur comment elle va apprendre la langue, comment elle va arriver à travailler, etc. Si on arrive à la relier, à relier ses projets à ce qui va être fait en formation, je pense que cela peut donner du sens et participer plus fortement à ce que on n'ait pas l'impression de pédaler dans le vide pour certaines personnes, et que donc finalement ce soit plus impliquant et pourquoi pas plus responsabilisant finalement pour l'ensemble des personnes. Parce que si ça touche à leur projet professionnel et à leur véritable avenir concret dans une ville et pas juste en France, là je pense qu'on touche plus spécifiquement à l'intérêt des personnes elles-mêmes. Voilà. Et pas seulement à l'idée de « il faut apprendre le français » comme une injonction qui serait extérieure. Voilà.
Alors, est-ce que c'est un cliché de dire aussi que peut-être qu'en France, on est un peu nul pour enseigner les langues vivantes, et que du coup, peut-être que ça aide pas dans le cas de personnes qui viennent apprendre le français?
Oh, je dirais que c'est certainement un fort cliché, et c'est aussi une idée qui est forte en France, parce que bien sûr, on est en France, dans un pays donc où la langue, elle représente, elle est un symbole, elle est même l'emblème de la cohésion nationale. Donc effectivement, il y a bien cette idée selon laquelle en France, on parlerait français, et pourquoi pas exclusivement français, c'est en tout cas une idée qui reste dans certains propos. Et pourtant, quand on s'intéresse un petit peu aux langues qui sont parlées dans la ville, on se rend compte que finalement, ce n'est pas complètement vrai. D'autres langues parlées en France, alors est-ce que les Français sont mauvais en langue? Je ne me permettrai pas de répondre à cette question. Mais en tout cas, est-ce que les Français sont plurilingues? Oui, j'en suis convaincu, il y a beaucoup de langues parlées en France. Et est-ce que ces autres langues sont valorisées? Pas forcément. Et alors justement, je rebondis sur cette question que vous me posez, qui est intéressante, sur un point, c'est que... Un des effets de ne pas pouvoir expliquer, donc dans d'autres langues, etc., les enjeux et ce qui va se passer dans ces cours de français, ça a une conséquence qui est très claire et à laquelle j'ai pu faire face pas mal de fois. Ce sont des personnes en classe qui me demandent « Monsieur, est-ce que j'ai le droit de parler ma langue dans la rue ? Monsieur, est-ce que on a le droit de parler notre langue aussi à la maison ? Et monsieur, est-ce que mes enfants, ils vont oublier leur langue ?» Voyez. Donc toutes ces questions-là, elles sont très importantes, parce que si les personnes ont l'impression que apprendre le français, cela veut dire oublier sa culture et oublier ses langues, eh bien cela peut avoir l'effet inverse. C'est ce que j'ai pu observer. Donc des personnes en entretien, donc des entretiens longs, hein, un monsieur, là je pense à un monsieur, cet entretien a duré 2h30. Il avait fait toute une liste d'éléments à expliquer, qu'il avait envie d'expliquer, très envie d'expliquer pendant cet entretien. Alors pourtant, c'était quelqu'un de très motivé en classe, hein, alors là. Mais ce qu'il m'expliquait, ce monsieur, c'est que il voit ses enfants qui vont à l'école, ils sont en train d'oublier l'arabe. Il voit sa femme qui progresse très fortement en français, et lui, il n'arrive pas à suivre. Alors qu'est-ce qu'il fait? Du coup, il fait tout l'inverse. Il parle exclusivement sa langue à la maison, pour pas que ça se perde. Donc vous voyez, du coup, une des conséquences de ne pas pouvoir discuter de... quelle est la légitimité de parler d'autres langues en France? Quelle place, vous, en tant que personne et avec votre culture que vous amenez, quelle place on vous laisse, vous, pour vous intégrer? Eh bien, toutes ces questions-là, si on ne les traite pas en classe, particulièrement, le risque, c'est de laisser cette mauvaise impression selon laquelle l'objectif, c'est d'assimiler les personnes, finalement, et de leur faire, peu importe qu'elles gardent ou qu'elles perdent leur langue. Voilà, donc je pense que, du coup, cette question-là, que vous posez, je ne saurais pas forcément y répondre, moi, mais je pense qu'elle est fondamentale pour ces formations.
Mais est-ce que ça existe quand même des formateurs qui parlent eux-mêmes plusieurs langues? Ah. Donc qui sont capables d'expliquer en arabe, en plein d'autres langues, en anglais au moins, de dire, donc là, le cours, en fait, l'objectif, c'est d'apprendre ça, et de dire, mais avant de passer par le français?
Alors, c'est interdit. C'est interdit depuis 2015 dans le cadre du CIR, c'est-à-dire que tous les formateurs sont censés faire le cours en français. Alors, vous imaginez bien que lorsqu'on fait face à des grands débutants, ce type de restrictions ou de... Je vous ai dit que les méthodologies, etc., étaient un petit peu, comment dire, choisies pour cet effet. Là, pour le coup, le fait de ne pas pouvoir faire appel à d'autres langues peut devenir un problème. Alors, est-ce qu'il y a d'autres langues qui sont utilisées Comment dire? Si vous voulez, en FLE, le FLE, le français langue étrangère, donc le français, l'enseignement du français pour des personnes pour qui ce n'est pas la langue maternelle, eh bien, il y a une vraie mode qui consiste à dire que le FLE, c'est tout en français. Que le FLE, ce serait le cours de langue où on passe de la langue d'origine au français, que à travers le français. Ça, c'est une idée reçue qui est particulièrement prégnante en France, et ce n'est pas sans lien à ce qu'on disait avant, avec cette idée qu'en France, on ne parlerait que français, etc. Et elle pose un certain nombre de problèmes dans ces classes lorsque l'on fait face à des grands débutants qui n'ont pas de repères. Donc finalement, l'effet concret d'interdire d'autres langues en classe pour enseigner, il est très clair, c'est qu'on perd un grand nombre de personnes dans les classes si elles ne peuvent pas s'accommoder au tout en français. Voilà, c'est un des effets que j'ai relevé dans mes entretiens et qui est revenu à de très nombreuses reprises. Alors, est-ce qu'on peut? Oui, on peut tricher, on peut utiliser. Donc dans ce contexte, du coup, ça s'appelle tricher, d'utiliser d'autres langues. C'est ce que j'ai travaillé à développer. Alors moi-même, je me sentais pas forcément très légitime à faire ça au début, à utiliser un petit peu d'anglais, un petit peu d'espagnol, etc., pour donner des repères aux personnes. Mais petit à petit, je me suis moi-même surpris à commencer à retenir certains mots d'arabe, parce qu'il y avait des classes à grande majorité arabophone. Et puis petit à petit, au fur et à mesure des mois, je me suis rendu compte que je commençais à parler un peu arabe et que je pouvais vraiment aider pour les premiers pas des grands débutants, qui étaient très étonnés d'ailleurs de voir que j'avais retenu tout ça. Donc finalement, à l'encontre de cette idée reçue, je dirais que ça fait partie de tout apprentissage que de s'appuyer sur ce que l'on connaît déjà, donc d'autres langues, pour pouvoir aller vers une nouvelle. Bien sûr, hein, ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir des classes de français qui sont intéressantes de mener exclusivement français. Mais s'interdire de faire appel à d'autres langues, s'interdire justement d'essayer de comprendre au-delà de cette barrière de la langue, n'aide pas forcément justement à aller vers la langue. Et je dirais même l'inverse, que cela peut amener à faire taire des personnes. Voilà.
Mais après, il y a un autre problème, c'est qu'il y a des choses qui sont intraduisibles.
Oui.
Il y a des choses qui existent, disons, dans la langue arabe, ou dans la langue française, mais on ne peut pas dire exactement la même chose. Donc
Ouais.
c'est...
Mais est-ce qu'il y a une traduction exacte d'une langue à l'autre? Je ne pense pas.
Non, mais ça complique encore, alors.
Oui, tout à fait. Alors par contre, ce que vous soulignez, c'est important, c'est que il s'agit de jouer avec des approximations. Si aucune traduction ne peut permettre de toucher exactement, ou en tout cas pas souvent, un équivalent, eh bien, il peut s'agir de jouer, de travailler sur ces approximations et aussi de travailler sur les stratégies que mettent en place les personnes elles-mêmes pour aller vers la langue. Par exemple, admettons que je donne un cours de français et j'ai préparé mon cours, etc. Et puis tout d'un coup, je me rends compte qu'il y a une des personnes qui utilise d'autres langues pour essayer de comprendre le document que je lui ai donné ou pour essayer de produire en français. Par exemple, pour compléter quelques mots dans sa phrase pour se faire comprendre. Alors, deux possibilités. Je peux tout à fait lui dire, non, 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 on va mettre ces mots de côté, on va essayer de tout dire en français, je vais vous le réécrire et vous allez le lire. Mais on peut aussi essayer de s'appuyer sur ces stratégies-là, puisque ce sont des stratégies que les personnes essayent d'utiliser pour apprendre. Voilà, on peut essayer d'en tirer parti de très nombreuses façons, dans des méthodologies qui ne sont pas franchement valorisées dans ces cours. Voilà.
Mais alors j'ajoute aussi que j'essaie de comprendre en fait comment fonctionne le français
Oui.
langue étrangère. Disons que chaque langue a sa logique propre, de même la conjugaison. Je pense que les verbes, je crois, en arabe varient si c'est une femme ou un homme. Ça n'existe pas en français. Donc par exemple, si on passe, comment on arrive à faire comprendre que le fonctionnement de la langue n'est pas le même? Donc, si on ne peut pas passer d'une...
Alors justement, par comparaison, c'est bien justement ce que cela permet. Ce que vous dites là, lorsque le tutoiement en arabe, il y a le tutoiement masculin et le tutoiement féminin. Tout à fait. Mais le fait justement de rendre compte que, eh bien, en arabe, il y a les deux, il y a anta et anti, pour garçon et pour femme, et en français, il y en a un, c'est tu. Anta, anti, tu, fini. Voilà. J'explique que celui-ci, pour madame et pour monsieur, par exemple, vous voyez, je peux faire le petit bonhomme au tableau, le monsieur et la dame. Il n'y en a qu'un en français, ça va être tu. Et je peux faire à côté égal, et en arabe avec le monsieur Anta et la madame Anti. Vous voyez, là, j'ai fait juste deux dessins. Bon, vous ne les voyez pas à la radio, mais pour le coup, en deux temps, trois mouvements, je n'ai pas utilisé de grammaire, je n'ai pas utilisé de bled, et j'ai rendu compte du phénomène linguistique qui consiste à le fait qu'en français, il n'y aura pas de distinction dans le tutoiement entre féminin et masculin. Voilà, donc. Je pourrais vous donner beaucoup d'exemples comme ça. Et pour revenir à ce que vous disiez, donc sur les méthodologies du FLE, Faire du FLE, précisément, si on enseigne le français à des personnes dont ce n'est pas la langue maternelle, ça ne peut pas se réduire à utiliser des méthodologies préconçues, donc des bleds, des manuels, etc. Cela demande de créer soi-même énormément de cours, énormément d'approximations, de retoucher les conjugaisons et d'essayer de les rendre plus accessibles, par exemple, vous voyez. Donc finalement, c'est retoucher à des choses qui sont presque sacrées, hein, toucher à la conjugaison française pour mieux l'enseigner. Ça peut paraître assez étrange comme ça. Et pourtant, le but, l'objectif de tout ça, donc de créer soi-même ses cours, c'est de s'adapter le plus possible aux personnes qu'on a en face de soi. De ne pas enseigner une langue juste comme une langue, comme quelque chose qui serait extérieur, mais justement de connecter cet enseignement aux apprentissages, aux projets, aux situations des personnes, mais aussi, pourquoi pas, à leur représentation. Vous voyez, il y a des personnes qui vont se représenter qu'apprendre le français, c'est très difficile, que c'est une langue austère ou que c'est une langue qui demanderait, par exemple, un travail de très longue haleine avec des documents papier. On peut s'imaginer ça. Il y a des personnes qui vont mettre de côté tous les papiers et qui vont juste apprendre sur le tas, vous voyez, et qui vont laisser un peu tomber au début l'écriture, justement parce que c'est leur stratégie et c'est leur habitude que d'aborder les langues de cette façon, en entrant beaucoup plus par l'oral. Donc, vous voyez, si on n'essaye pas, dans un cours de FLE, de s'adapter à ces différentes stratégies et à ces différentes entrées, ces différents modes d'entrée dans la langue, eh bien, du coup, on risque de passer à côté de l'essentiel, c'est-à-dire de comment les personnes, elles s'y prennent pour aller vers la langue. Voilà. Donc, c'est vraiment, je pense, une question d'adaptation. Et quand on fait du FLE, c'est sûr que ça demande de laisser de côté énormément de ce que l'on a vécu soi-même dans sa scolarité, finalement, pour apprendre des langues. Voilà.
Eh bien, je vous propose, chers invités et chers auditeurs, de faire une pause musicale pour qu'on puisse reprendre notre souffle avec ces masques et compagnie. Et alors, Éric Mercier, vous aviez choisi une musique. Alors, c'est Serge Gainsbourg, c'est Petit Rien. Pourquoi vous aviez eu envie de nous faire écouter ça?
Alors,
je crois que ça fait rire, non?
C'est vrai qu'on pourrait dire, là, le lien est difficile à trouver, mais si, tout à fait. Serge Gainsbourg dit parfois trois fois rien, c'est déjà beaucoup. Et lorsque je vous parlais de ces tests en langue, eh bien, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas dans ces tests et qui sont pourtant fondamentales, qui peuvent être d'une importance capitale pour les personnes. Par exemple, lorsque l'on fait des tests, on ne voit pas forcément que la personne elle a réussi à entrer dans la lecture du français. Ça ne sera pas apparent, la personne peut avoir 0, 0, 0 ou 3 tests. Et finalement, elle a accompli pour elle un exploit gigantesque, qui est celui de commencer à lire en français. Eh bien, ça n'apparaît pas au test, mais c'est déjà des tout petits riens qui se font déjà énormément et qui serait dommage de déconsidérer ou de ne pas regarder. Voilà.
Alors, on écoute Serge Gainsbourg, c'est Petit Rien dans la Méridienne. Vous êtes toujours sur Radio Campus Tour.
Mieux vaut ne penser à rien que ne pas penser du tout. Rien c'est déjà, rien c'est déjà beaucoup. On se souvient de rien, et puisqu'on oublie tout, rien c'est bien mieux, rien c'est bien mieux que tout. Mieux vaut ne penser à rien que de penser à vous. Ça ne me vaut rien. Ça ne me vaut rien du tout. Mais comme si de rien n'était, je pense à tout. Ces petits riens qui me venaient de vous. Si c'était trois fois rien entre nous. Évidemment, ça ne fait pas beaucoup. Ce sont ces petits riens que j'ai mis bout à bout. Ces petits riens qui me venaient de vous. Mieux vaut pleurer de rien que de rire de tout. Pleurer pour un rien, c'est déjà beaucoup. Mais vous, vous n'avez rien dans le cœur et j'avoue. Je vous en veux, je vous en veux beaucoup. Ce sont ces petits riens qui me venaient de vous. Le voulez-vous, tenez, que voulez-vous? Moi, Je ne veux pour rien au monde, plus rien de vous. Pour être à vous, faut être à moi, t'es fou.
Serge Gainsbourg, c'est Petit Rien dans la Méridienne sur Radio Campus Tour. Alors, Éric Mercier, vous vouliez quand même nous présenter un peu plus en détail cette thèse que vous avez soutenue. Alors, ça va être un peu sur le modèle ma thèse en 180 secondes. Mmh. Alors, on vous écoute.
Oui. Alors, je voudrais d'abord vous parler assez rapidement. Alors, au moins avant de revenir à ça, je voulais vous expliquer ce que j'ai fait concrètement. Donc, j'ai formé des centaines de migrants dans ces formations obligatoires. Et en même temps, donc, j'ai réalisé des entretiens avec 14 d'entre elles à qui j'ai proposé. Voilà. Donc avec des interprètes. Et alors, quel type de réaction j'ai eu droit dans ces 14 entretiens? Alors, il y a tout type de réception hein, de ces formations, des plus positives aux plus négatives. Et alors là, pour le coup, j'étais très étonné parce que lorsque j'ai proposé à ces différentes classes de réaliser ces entretiens, tous ceux qui se sont proposés, donc les 14, étaient toutes des personnes qui étaient vraiment motivées en classe, donc qui ne montraient aucune réticence. Et je me disais, mince, ils vont tous me dire que c'est super, et donc finalement, ils vont juste être d'accord, en fait, avec ce qu'on leur propose. Et donc, j'ai été très étonné, parce que finalement, sur ces 14 personnes qui participaient en classe, etc., qui jouaient le jeu de la formation, eh bien, au final, il n'y en a qu'un seul qui a exprimé un accord total avec ses contrats d'intégration. Donc j'étais surpris, j'ai eu droit à des réactions particulièrement critiques. Et donc du coup, ce qui est intéressant pour mon travail, c'est que j'ai pu relever un certain nombre d'effets contre-productifs de cette centration sur les seules formations de français. Alors que m'ont raconté ces personnes, pour faire vite? Eh bien dans certains cas, ces formations, elles peuvent être perçues comme une fausse solution, comme une impasse. Ça mène certains informateurs à exprimer qu'ils se sentent sous-estimés dans leur potentiel d'apprentissage et d'intégration, ou encore qu'ils se sentent empêchés finalement de participer à la société française. Et donc quand ça se passe comme ça, le problème c'est qu'on risque de laisser cette personne sur une mauvaise impression finalement. Et un des effets directs, c'est pourquoi pas d'éloigner un temps de la formation et de l'aide que pourtant ces formations visent à apporter. Et au final, alors pour aller vite, ce que ces entretiens m'ont appris et nous apprennent, à mon avis, c'est l'importance de s'intéresser à ces personnes et à leur situation pour mieux les aider. Donc moi-même, j'ai fait appel à des interprètes. Et tout à l'heure, on parlait du fait que justement les autres langues étaient interdites en classe depuis 2015. Et précisément, je pense que le fait d'avoir fait appel à ces interprètes souligne bien tout ça. C'est-à-dire que ça m'a demandé... J'ai dû faire appel à ces langues en présence pour pouvoir mieux comprendre les situations dans leur complexité. Et donc, je pense que ça souligne l'importance de viser à favoriser la rencontre entre les migrants et la société d'accueil dans tous les sens du terme, que ce soit par le biais de ces formations ou d'autres moyens. Et donc, pour ma part, les projets qui débouchent sur lesquels débouche ma thèse, eh bien, c'est justement de travailler à des façons de tirer parti de cette rencontre qui peut se tisser en formation, et donc avec l'idée d'ouvrir à toutes les autres perspectives qui pourraient être intéressantes que la seule poursuite d'une progression en français. Alors je vous propose de m'arrêter juste 2 minutes sur ces pistes qui sont prometteuses. Alors du coup, lorsque la formation linguistique ne fait pas sens, on pourrait imaginer d'autres solutions en complémentarité. Et pour le coup, bah, j'ai en tête un grand projet qui réunirait de nombreux organismes de formation qui se mettraient ensemble avec un objectif commun qui serait de faire participer les migrants eux-mêmes à leurs propres accompagnements. Donc par exemple, à travers la mobilisation d'interprètes, donc pour un suivi de formation en amont, pendant la formation, pourquoi pas aussi. La mise en place de parrainages d'anciens, de nouveaux habitants de la ville par de plus anciens. En faisant appel à des médias, à des associations, ou encore en donnant la possibilité à ces migrants de voter, d'élaborer et de participer à la création de certains projets pédagogiques. Et pourquoi pas des projets citoyens. Voilà.
Et alors, en fait de projets citoyens, je crois, messieurs, que vous avez mis en place une association. Vous avez créé une association ?
Oui.
Vous voulez nous en dire plus ?
Oui, parfait. L'idée de l'association, c'est parce qu'en fait, quand je suis arrivé là, j'ai suivi certaines stratégies pour arriver aujourd'hui à parler un petit peu de français comme je parle actuellement, et aussi d'intégrer dans la société française. Et donc, justement, j'ai suivi certaines stratégies. C'est de créer du lien. J'ai créé du lien, voilà, avec le français et des associations qui m'ont aidé beaucoup par rapport à l'apprentissage de la langue française. Française et l'intégration en général. Et donc, justement, j'ai pensé à ça. J'ai dit, bah, c'est moi qui. J'ai arrivé à ce point. Et alors, les autres, comment est-ce qu'ils peuvent pour arriver aujourd'hui et pour apprendre et pour étudier, pour. Voilà, pour travailler aussi. Donc, on a pensé, avec mes camarades français et des Soudanais aussi, de créer un lien fort entre France et Soudan, et pas juste ici. Notre association, c'est OCS franco-soudanais, c'est-à-dire Échange culturel et solidaire franco-soudanais. C'est un échange culturel et solidaire. Solidaire, on peut voilà, donner par exemple des cours de français aux des migrants qui viennent d'arriver justement, et aussi faire les démarches administratives, aider l'eau pour bah, ceux qui ont besoin en fait. Dans le limite, comment dire, qu'on peut le faire en fait. Et aussi culturel, organiser des soirées, des choses culturelles, que ce soit ici en France ou bien que ce soit au Soudan. Et ça nous permet de créer un lien fort et ça permet d'intégrer des migrants et des réfugiés dans cette thématique. Voilà.
Et vous, Ifik, qu'est-ce que vous faites dans cette association?
J'étais quelque chose juste que l'on pose sur le même cause dit en douane, c'est le même.
Alors, quel événement vous avez pu mettre en place? Alors, est-ce que vous parlez d'échanges culturels, d'événements? Est-ce que vous avez un exemple de choses que vous avez déjà fait?
Ah oui, on a fait un événement culturel que c'était un événement soudanais, on peut dire, qu'on avait fait. On a organisé des choses, on a voilà des choses culturelles qui pouvaient passer au Soudan. On a invité du monde qui était sur place et voilà, les gens étaient heureux. On a pu montrer certaines choses comme le mariage, comme bah, des langues par exemple, la langue arabe et certaines langues françaises, certaines langues soudanaises aussi. Voilà que c'était bien passé normalement. C'est un événement qui s'est passé l'année en 2019. Voilà donc. On peut créer des choses comme ça, sauf qu'avec le corona et le Covid, on n'arrive pas à bien organiser des choses. Mais sinon, on a des projets, oui, on a pas mal de projets. On est en train de le mettre sur place et de le développer aussi. Pardon.
Et c'est quoi là, on peut savoir ces projets? Est-ce qu'on
Bah,
peut être curieux et savoir?
oui, il y a des projets. Bah, justement, on a le projet. C'est comment dire, de créer des idées et des projets ensemble avec des associations françaises, par exemple, qui sont là, et des gens français qui peuvent nous proposer, comme c'était un échange culturel solidaire entre France et Soudan, bah, ça concerne tout le monde en fait. On peut créer des idées, on peut avoir des projets ensemble afin de faire intégrer des migrants et des gens en général, et faire aimer aussi entre, voilà. Fait entre les deux peuples, que ce soit le Soudan et la France. Et donc, c'est à partir de là que je propose, et j'ai déjà proposé à pas mal d'associations, de nous proposer qu'on s'assoie ensemble pour des projets et de faire des projets ensemble. Et bah, au niveau de aide solidaire, bah, justement, on est en train de voir avec le mairie actuellement pour pouvoir avoir un local. Pour nous permettre de faire nos petits projets par rapport à la langue française, par rapport à des événements qui peuvent passer sur place. Voilà.
Donc ça peut être aussi par exemple, je sais pas, j'ai dit au hasard, si vous voulez montrer du cinéma du Soudan par exemple, donc bah tiens là il y a les cinémas studios, donc là on peut faire un événement autour d'images de cinéma du Soudan.
Oui, c'est ça, tout à fait. On pense à ça aussi. Bah, tout ce qui est culturel, on a des thématiques, voilà. C'est juste qu'on attend, voilà, que le Covid avance un petit peu et après on peut mettre en place. Ouais.
Voilà. Alors, message au Covid, merci de nous laisser tranquilles. Est-ce que vous avez envie de nous dire ce que vous faites, messieurs? Donc, il y a cette association, mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous continuez à apprendre le français? Qu'est-ce que vous faites?
Aujourd'hui, parce que moi, exactement pour moi, aussi plus que 4 années, encore, je n'ai pas parlé français très bien. C'est très mal pour moi. Je cherchais le calculus, le trouver mieux que de prendre le français. Parce qu'il n'y a pas la place à continuer. Je prends le français, je progresse. Après, je fais travail, ma projet, je fais travail. Parce qu'encore, moi aussi, les 4 ans, c'est très bizarre. Mais je n'ai pas parlé français, c'est bien. En plus, je fais un trait avec le français, c'est mieux. Parce qu'on pas de toutes les, jusque les écoles. Aller en formation, en retour. Je te dis remercier pour Café de Langue. Déjà, il y a une. La café de langue. Tous les mercredis, j'ai parti là-bas, intéressé avec le français, discuter un peu et progresser le bien. Ça, moi, je chargeais tous les jours en classe pour le cours de langue, le français, parce que moi aussi, maintenant, j'habite ici en France. Pour moi, impossible, chaque cours, comme ça, les lettres venues à la maison, moi, je ne peux pas les lire, je ne peux pas les écrire, c'est très bizarre pour moi.
Et ce serait quoi votre projet? Qu'est-ce que vous aimeriez faire ici en France?
Ici en France, déjà normalement, j'ai beaucoup de différents métiers de travail, mais maintenant aussi, avec la langue française, impossible, je trouve de travail. Normalement, déjà comme réceptionniste dans l'hôtel, déjà dans le travail en agriculture, beaucoup de plans, quelque chose, mais maintenant aussi, avec la langue française, c'est très difficile. Donc, chargé tous les jours progresser bien avec la langue française et retourner trouver du travail.
Et vous, Radouane, c'est quoi votre projet ici en France?
Projet personnel, bah, je suis étudiant actuellement, je suis en sociologie, et, bah, afin de faire journalisme. Donc, dès la deuxième année, je vais postuler pour le master en journalisme.
Voilà.
Voilà.
Super. Et ben, en tout cas, merci beaucoup, messieurs, tous les trois, d'être venus dans cette émission La Méridienne. Alors, il est déjà presque l'heure de se quitter. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose?
Bah, merci de nous avoir nous invités. Et c'est un sujet qui est très intéressant. C'est intéressant, c'est difficile, oui, mais c'est très intéressant. On espère que les gens peuvent comprendre ce que Monsieur Eric est en train de mettre en lumière. De le mettre en lumière.
Moi aussi, je voulais vous remercier pour cette invitation et puis je rejoins Radouane sur cette idée que c'est d'actualité, mais c'est aussi d'intérêt public que de traiter ces questions au-delà des seuls imaginaires que l'on peut avoir en France, finalement, sur comment on s'intègre et comment on apprend à parler. Et je vous souhaite à tous les deux de vraiment réussir tous vos projets. Et j'imagine, je ne sais pas, mais j'imagine que si peut-être l'on pouvait permettre à de nombreuses personnes de trouver d'autres moyens que la seule formation en langue, je ne sais pas ce que tu en penses, Ishik, mais en tout cas, comme je te connais en tant qu'ami, je me dis souvent, peut-être que si tu trouvais un travail, un petit travail ou un travail, peut-être que ça pourrait lui permettre justement de progresser d'un coup. C'est tout à fait possible. Je ne peux pas le dire. Je pense que rien ne peut garantir, mais en tout cas, c'est bien l'idée et je trouve que c'est important de vous inviter et de ne pas justement se retrouver à parler de ces questions sans les migrants. Voilà.
Eh bien, merci à tous encore d'être venus dans cette méridienne. Donc, cette émission est à réécouter en podcast sur notre site www.radiocampustour.com et elle sera rediffusée aujourd'hui même à 17h. On se quitte en écoutant l'artiste incroyable qui fait le générique de cette émission et qui malheureusement a été emporté par le ou la Covid, c'est Manu Dibango. Et je vous souhaite à tous une excellente journée à l'écoute de nos non moins excellents programmes.